Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. C'est lundi, c'est parti et on est ensemble jusqu'à 9h. 404 votes contre et 1 vote pour. La partie recette du budget a été rejetée ce week-end à la quasi-unanimité des députés. Alors maintenant, on fait quoi? 49-3, vote par ordonnance, vous n'y comprenez rien. Nous non plus, et eux non plus. Mais pas de panique, dans 10 minutes, le constitutionnaliste Benjamin Morel sera avec nous dans ce studio. La France peut-elle se retrouver sans budget? Il va tout nous expliquer donc à 7h10. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le patron de la France Insoumise, Manuel Bompard. Les Insoumis qui prévoient une nouvelle motion de censure. Faut-il retourner aux urnes? C'est ce que demande Marine Le Pen. Je lui poserai aussi la question donc à Manuel Bompard, ce sera à 8h30. Tout ça vous fait réagir? Est-ce que nos élus sont irresponsables? Je vous attends sur ce sujet comme sur tous les autres. Vos témoignages, vos alertes, vos réactions, c'est au 3216 au téléphone et c'est sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Entendre la France à travers vous, appelez-nous. Et puis attention, c'est le dernier jour pour tenter de remporter les 120 000 euros. C'est énorme, 120 000 euros net d'impôts. RMC vous fait gagner cette somme record. C'est aujourd'hui. Vous allez donc entendre une alerte d'ici 9h. Ce sera la dernière. Donc restez bien à l'écoute pour pouvoir réagir dès que ça sonne. Apolline Matin, c'est parti. Dans un instant, le journal de 7h. Il est 6h59. Et c'est encore une assez mauvaise journée, on peut le dire, Géraldine.
Peut dire, oui. Alors c'est plus doux, c'est la bonne nouvelle, mais ça va être très pluvieux, particulièrement sur le sud-ouest avec la Gironde, la Dordogne et la Corrèze qui sont en vigilance orange. Donc pour ces fortes pluies, à risque d'inondation, il va beaucoup pleuvoir de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est avec de fortes chutes de neige en montagne. Sur le nord-ouest, on peut avoir des éclaircies, mais il y aura aussi de bonnes averses, parfois orageuses, parfois sous forme de grésil et avec beaucoup de vent. Mais effectivement, les températures sont bien remontées. Il fait doux ce matin, température plutôt de saison cet après-midi. Après-midi avec 8 à Lille, 10 à Paris, 11 à Lyon, 14 à Bordeaux, 16 à Marseille, 17 pour Perpignan et Ajaccio.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS Agréé CNAPS.
Excellente journée à tous à l'écoute d'RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une permission de sortie qui pose question accordée ce lundi à l'un des 100 détenus les plus dangereux de France pour un entretien d'embauche sans escorte à plus de 600 km de la prison où il est incarcéré. Boualem Sansal va bien, c'est lui qui le dit dans sa première prise de parole depuis sa libération. Il plaide pour une réconciliation entre la France et l'Algérie. Et l'optimisme des États-Unis ce matin au lendemain de pourparlers sur l'Ukraine avec sur la table un nouveau plan de paix validé par Kiev.
Un baron de la drogue dehors ce matin.
Libre, malgré son statut, il fait partie des 100 plus gros narcotrafiquants du pays, incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil. Et il est autorisé à sortir. Une permission accordée dans le cadre de son droit à la réinsertion. Il doit passer un entretien d'embauche à Lyon ce lundi. Et ce qui surprend Julie Brault, c'est que cet homme va pouvoir se rendre à plus de 600 km de son établissement pénitentiaire sans aucune escorte.
Oui, car la loi en matière d'aménagement des peines est ainsi faite. Selon nos informations, c'est la femme de ce détenu de 52 ans qui viendra le chercher ce matin devant la prison de Vendin-le-Vieil pour l'emmener en région lyonnaise où il doit rencontrer un potentiel employeur. L'ancien dealer, incarcéré depuis 2012 pour narcotrafic, ne sera escorté par aucun policier. Il devra ensuite regagner de lui-même sa cellule ce soir en respectant un horaire défini. Une permission de sortir légale mais qui interroge au regard du profil de ce détenu qui s'était notamment évadé de prison en 2014 à l'aide d'un commando armé. Des antécédents qui, je cite, exigent une vigilance toute particulière, a assuré hier Gérald Darmanin, avant de pointer la nécessité de réviser la loi pour créer des règles spécifiques pour les narcotrafiquants.
Alors je ne sais pas si vous, ça vous fait réagir, mais moi j'avoue que depuis hier soir, je suis en toupie sur cette histoire que je trouve proprement hallucinante, le contraste entre la prison d'ultra haute sécurité d'un côté et cette liberté totale pendant une journée sans escorte pour traverser la France. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir au 3216 et ne manquez pas à 7h40, la porte-parole de l'administration pénitentiaire qui sera donc mon invité sur RMC.
Les premiers mots de Boualem Sansal depuis sa libération il y a près de 2 semaines, invité de France 2 hier soir. L'écrivain franco-algérien de 81 ans est revenu sur les conditions de son année de détention en Algérie, condamné pour ses prises de position, hypothèse Thomas Becker, remise en question par l'écrivain.
Oui, les cheveux blancs coupés, la voix calme, l'écrivain de 80 ans a commencé par donner des nouvelles de sa santé.
Je vais bien, j'ai diagnostiqué un cancer de la prostate, j'ai été traité pour ça, par des professeurs et des médecins consciencieux, sérieux.
Devenu le symbole de la crise diplomatique entre Paris et Alger, il le dit lui-même, chacun de ses mots est contrôlé, ce qui ne l'empêche pas de raconter aux Français sa vie dans les geôles du régime algérien.
La vie est dure dans une prison, le temps est long. On se fatigue, on s'épuise très vite, on se sent mourir.
Une captivité qui a débuté en novembre 2024 à l'aéroport d'Alger avec un trajet en voiture forcé de porter une cagoule. Un an plus tard, il en est certain, sa détention était liée aux prises de position de la France.
C'était que depuis quelques mois, entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclarée suite aux déclarations de Macron, président Macron, qui reconnaissait formellement la baroquinité du Sahara. C'est de là... Tout a commencé là.
Désormais libre, il compte bien retourner dans son pays natal.
Le plus tôt possible, pour quelques jours au moins récupérer mes affaires.
Et notamment son ordinateur, toujours entre les mains de la justice algérienne.
Retour à la case départ pour le budget de l'État après son rejet à l'Assemblée nationale samedi. C'est la copie du gouvernement qui va donc débarquer au Sénat ce matin 9h30 en commission avant son passage dans l'hémicycle à partir de jeudi.
Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron poursuit sa visite en Afrique.
C'est la dernière journée pour le chef de l'État ce lundi attendu en Angola après le Gabon et l'Afrique du Sud en marge du G20 depuis lequel il a confirmé sa volonté de rétablir le service militaire une semaine après les propos du chef d'État-major aux armées qui déclarait que la France devait accepter de perdre des enfants. Le président de la République va plus loin, il intervient avec ce service nouvelle génération détaillé dans les colonnes de nos confrères à la Tribune dimanche.
Oui, cela fait environ un an que c'est dans les tuyaux, confie un proche connaisseur du dossier, qui confirme l'idée d'un service militaire volontaire pour les jeunes dès 18 ans, et ce, dès l'an prochain. Il serait donc bien question d'un engagement d'une durée de 10 mois, rémunéré à hauteur de plusieurs centaines, voire jusqu'à 1000 euros, avec l'octroi de crédits universitaires. L'objectif, recruter à terme de 10 à 50 000 jeunes par an, qui ne seraient pas envoyés en opération à l'étranger, mais qui pourraient être enrôlés dans des missions de type opération Sentinelle. Pas de confirmation officielle de l'Elysée, mais un proche d'Emmanuel Macron nous dit que sa ligne est claire. Il veut, dit-il, un service national plus adapté à la nouvelle donne géopolitique que l'on vit depuis quelques années. Des annonces sont attendues jeudi, sans doute lors d'un déplacement du président.
Une manière de préparer les esprits dans un monde fait d'incertitudes, dissuader l'autre de venir, dit le chef de l'État, alors même que les États-Unis tentent de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Des pourparlers constructifs se sont tenus hier à Genève en Suisse autour de la table des Européens, des Ukrainiens, mais aussi des Américains optimistes ce matin, Romain Houg, sur la possibilité de conclure très vite un accord.
Oui, les États-Unis et l'Ukraine ont travaillé sur la base du projet proposé par Donald Trump la semaine dernière pour aboutir à une version affinée, disent les deux parties, sans pour autant que l'on sache vraiment ce qui se trouve dans cette nouvelle mouture du texte. La version initiale devait contraindre l'Ukraine à céder certains de ses territoires, à réduire massivement la taille de son armée ou encore à renoncer à intégrer l'OTAN, un projet qui avait alors été salué par Vladimir Poutine, mais vivement critiqué par l'Ukraine et ses alliés européens. Cette nouvelle version du plan de paix est-elle désormais plus favorable aux Ukrainiens ? Elle reflète en tout cas la plupart des priorités clés de Kiev, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et les points qui restent en suspens ne sont pas insurmontables, ajoute de son côté le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui ouvre au passage la voie à une prolongation de l'ultimatum lancé par Donald Trump, qui avait laissé à l'Ukraine jusqu'à la fête de Thanksgiving ce jeudi pour se prononcer sur ce projet de plan de paix.
Les précisions de Romain Houg ce matin. La refonte des rythmes scolaires en question, c'est l'un des objets de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui s'est terminée hier par la remise d'un rapport parmi les 20 recommandations la semaine à 5 jours du lundi au vendredi. Mercredi inclus avec des horaires adaptés au rythme biologique des enfants. On en reparle dans le journal de 7h30. Le sport, Lille qui retrouve le sourire, tombeur du Paris FC hier soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Victoire 4 buts à 2 grâce au doublé d'Olivier Giroud, 2 buts pour le champion du monde après une longue disette de 3 mois sans marquer en Ligue 1.
Sur le plan personnel, c'est vrai que les cages se faisaient un peu plus petites ces derniers temps, mais je sais que c'est des cycles. Quand tu es attaquant, j'en ai vécu d'autres. Là, même si j'ai connu une petite période de disette, c'est bien, la confiance est toujours là et ils savent que quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur pour ce club et pour ce maillot.
Et cette victoire, elle permet aux nordistes de grimper à la 4e place du classement. Retenir également le match nul de Lyon sur la pelouse d'Auxerre, 0-0. Et puis en rugby, la belle victoire du Stade français hier soir en clôture de la 10e journée de Top 14. Les Parisiens s'imposent face à Toulon 51-24 et grimpent sur le podium grâce au bonus offensif. Le RCT chute à la quatrième place.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h07. Vous êtes nombreux à réagir à cette proposition de la Convention citoyenne sur les rythmes scolaires. Bonjour Julien.
Bonjour Apolline.
Julien, aide-soignant en Normandie. Parmi les propositions de cette Convention citoyenne, il y a l'idée de lisser la semaine, qu'il se soit une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, tous les jours pareil. Ça vous fait réagir Julien, parce que votre fils est en 6e je crois.
Exactement, mon fils Paul est en 6e et je vois, donc là il a la semaine à 4 jours et demi lui, hein, donc le mercredi okay. Fini aux alentours de midi, mm-hmm. Et il est déjà vraiment épuisé. J'ai de la chance d'avoir un enfant qui n'a pas de problème d'apprentissage, aucun trouble 10, ouais. Il apprend bien, il travaille bien, et je vois déjà que c'est du temps à la maison, c'est de l'organisation, mm-hmm. C'est de l'épuisement, c'est de la tension aussi au sein mm-hmm. des familles. Je me dis, rajouter du temps scolaire, ça va être générer de la fatigue en plus, à moins que vraiment toute l'organisation soit revue, mais c'est vraiment
alors,
pas...
Alors évidemment, bien. L'idée, c'est pas de rajouter, c'est de lisser, c'est-à-dire au fond, de faire en sorte que les journées soient un peu moins longues, mais toutes pareilles. C'est-à-dire, typiquement, ce que vous avez en Allemagne ou aux États-Unis, c'est du 8h30, 15h30, quoi, vous voyez. L'idée, c'est que le jeu... Par exemple, vous faites quoi le mercredi après-midi? Qui s'occupe de votre fils?
Bah, là, moi, j'ai de la chance. Je suis de nuit en ce moment aux urgences. Donc, je suis disponible pour lui. Mais c'est vrai qu'habituellement, c'est toujours un peu. Ça peut être compliqué. Il faut voir avec les grands-mères, avec les grands-pères qui sont aux alentours. Effectivement, ça peut faciliter la vie de tous ceux qui travaillent et qui ont des enfants.
L'épuisement dont vous parlez, il le mentionne aussi. C'est-à-dire, effectivement, il y a des journées terribles. Parfois, ça commence à 8 heures. D'ailleurs, ils encouragent à ce que ça commence un peu plus tard. C'est aussi un peu de notre faute. C'est parce que je pense que les parents ont de plus en plus de mal à coucher les enfants tôt. Ça, je ne sais pas comment vous gérez, vous, Julien, mais c'est vrai que c'est quand même une des difficultés le soir, c'est rentre dans ta chambre, va te coucher, va dormir. Mais Julien, moi, je sais que mon expérience d'avoir été aux États-Unis, mes enfants étaient, je trouve, beaucoup plus apaisés parce que tous les jours, c'était la même chose. Il n'y avait pas ce côté « Attends, aujourd'hui, on sort à quelle heure ?» En fait, c'était tous les jours la même chose. Il y avait une forme de sérénité dans la semaine. Mais je comprends que spontanément, on a plutôt l'impression qu'au contraire, le mercredi après-midi, il se repose. Mais est-ce qu'il se repose vraiment, votre fils, le mercredi après-midi, Julien ?
Bon, il fait beaucoup de sport. Donc, effectivement, c'est pas forcément du repos. Mais en tout cas, au niveau intellectuel, on va dire que là, il n'est pas dans l'apprentissage. Il n'y a pas cette pression scolaire aussi. C'est quand même du bon temps, j'ai envie de vous dire, pour lui. Malgré tout, effectivement, lycée, il y aura quand même le même nombre d'heures sur la semaine. Peut-être une heure est partie, mais il y a aussi le problème du travail à la maison, des devoirs. Vous parliez des États-Unis. Il y a l'exemple de la Finlande, notamment, qui est quand même un pays qui réussit sur pas mal de points, où les enfants n'ont quasiment plus de devoirs. En tout cas, les professeurs les poussent plutôt à se tourner vers la culture.
Très intéressant. Très intéressant cette idée aussi que les devoirs. Nous sommes lundi, je vous avoue que mon après-midi hier, mon mari en a passé l'après-midi à faire les devoirs, c'était épuisant. Merci en tout cas, merci Julien. Merci de votre témoignage ce matin. Très belle journée à Julien. Comme Julien, vous nous appelez au 32-16, 7h10. 7h10, c'est à suivre. À suivre sur RMC, tout ça pour 525 heures de débat et tout est à recommencer. Les députés ont rejeté à la quasi-unanimité la partie recette du budget et maintenant on fait quoi? Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, vous alertez dans un instant sur RMC. On va dans le mur, vous nous le dites. Allez, à tout de suite, il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe. 7h14 sur RMC à la radio, sur RMC Story à la télé. Écoutez, c'était vendredi soir à l'Assemblée nationale.
Pour 1 contre 404. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Ah bah non, c'est le moins qu'on puisse dire. 404 contre un seul député qui a voté pour. La partie recette du budget a donc été rejetée à la quasi-unanimité. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Vous êtes politologue, maître de conférence à l'Université Paris 2. Vous décortiquez depuis toujours la constitution de la Ve République. Comment on peut arriver à un tel désastre? Ça veut dire que 125 heures de débat, pour rien.
Oui, en effet, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand vous rejetez la première partie du budget? La copie qui part au Sénat, c'est la partie originelle, c'est la version originelle, celle qui a été déposée par le gouvernement.
On repart à la case départ.
On repart à la case départ,
c'est le Monopoly.
Les sénateurs vont avoir à examiner le même texte sans aucune modification des députés que celui qui a été soumis aux députés, qui a été déposé par le gouvernement. Donc en effet, ces 125 heures de débat n'auront servi à rien.
Donc là, on repart à zéro. Ça montre d'abord effectivement qu'aucun député ne souhaite ce budget en l'état. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Bah, ce qui peut se passer maintenant, c'est que les sénateurs, eux, ils vont adopter une version très à droite, une version qui est inadoptable par l'Assemblée nationale. Et donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. On met 7 députés, 7 sénateurs dans une pièce et on attend qu'ils se mettent d'accord. Si jamais ils ne se mettent pas d'accord, c'est très probable, eh bien, on repart pour une deuxième lecture et on n'aura jamais un budget à temps. Mais on va être tout à fait clair. Il n'y a aucune majorité possible à l'Assemblée nationale qui pourra adopter ce budget.
Donc c'est déjà mort en fait.
Pour que ce budget passe, il y a deux voies. Soit vous avez tous les LR, tous les macronistes, tous les socialistes, sans exception. Il n'y a pas « je suis en circonscription parce qu'il y a la foire à l'ail ». Ils sont tous là et ils votent le budget. Ça n'existe pas. Soit vous avez tous les macronistes, tous les LR qui votent le budget. Je rappelle que là, ils l'ont rejeté. Hein. Mmh. Et vous avez toute la gauche hors LFI, communiste, écologiste, socialiste, qui s'abstient. Ça n'existe pas non plus. Et donc, dans ce cadre-là, on peut se faire tous les scénarios qu'on veut. Il n'y a aujourd'hui pas de majorité pour adopter ce budget.
Dans ce cas, ils continuent à faire comme si. Ils continuent à s'agiter, à aller à l'Assemblée, à faire semblant de faire des petits accords, alors qu'en fait, tout ça est un gigantesque théâtre.
Bah, exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une tragédie grecque. Vous savez, dans une tragédie grecque, vous avez le cœur qui dit, dès le départ, que Oedipe va se crever les yeux, épouser sa mère et tuer son père. Et ensuite, le rôle des acteurs, c'est de vous faire oublier ce que vous savez déjà. On est là. C'est-à-dire
qu'on sait déjà que c'est raté.
On sait déjà que c'est raté, mais il faut donner des gages parce que tout le monde est en campagne. Tout le monde essaye de marquer des points symboliques. Et donc, cette campagne-là, in fine, bah, elle ne mène quand même pas à l'adoption d'un budget.
Benjamin Morel, s'il n'y a donc aucun budget voté, ce qui est ce que vous prévoyez dès maintenant, vous, notre cœur de la tragédie grecque, comment sera gouverné le pays ?
Alors, si jamais on n'a pas de budget adopté, la tentation du gouvernement, c'est de voter des lois spéciales. Les lois spéciales, ça autorise le gouvernement, après le 1er janvier, à emprunter sur les marchés et à lever les impôts. Mais c'est forcément temporaire, les lois spéciales. C'est reculer pour mieux sauter. Tout bêtement, parce que vous avez des politiques publiques qui sont engoncées, qui sont fragilisées, et vous pouvez pas avoir de marché public important. Or, derrière, il y a des entreprises qui vivent de ces marchés publics. Donc, pour l'économie, si ça dure quelques semaines, ça va. La dernière fois, ça durait jusqu'en février. Si ça dure plus longtemps, c'est un vrai
désastre. Et donc ensuite, on passe aux ordonnances ?
Ensuite, au bout de 70 jours, on peut, quoi qu'il arrive, passer aux ordonnances. Mais c'est très lourd politiquement, les ordonnances. Parce que tout bêtement, on a voté un budget dans ce pays depuis 1816. Et donc là, on romprait le fait qu'on vote le budget. Et donc derrière, il y a une motion de censure qui guette. Donc l'autre option, c'est de réhabiliter le 49 alinéa 3. Mais cette histoire ne finit que par des ordonnances ou pas un 49 alinéa 3.
Et le 49-3, on le sait bien, Sébastien Lecornu s'était engagé solennellement à y renoncer. S'il ressortait aujourd'hui le 49-3, alors certes, vous le dites, c'est un outil démocratique qui permettrait de faire passer ce budget, mais c'est la crédibilité démocratique qui alors serait écroulée. Parce qu'enfin, un Premier ministre qui dit solennellement « je n'y aurai pas recours » et qui l'utiliserait in fine, plus personne ne croirait, plus personne. C'est fini.
Quoi qu'il arrive, je dirais, cette affaire, elle finit relativement mal.
Elle est perdant-perdant, cette histoire.
Soit vous utilisez le 49-3, qui est quand même bien moins pire que les ordonnances, parce qu'au moins avec le 49-3, vous avez un vote. Vote sur une motion de censure, certes, vote qui avantage le gouvernement, mais vous avez quand même un vote. Soit vous utilisez les ordonnances, mais là, il y a aucun vote pour des résultats qui sont bien pires pour le Parlement. Le problème, encore une fois, c'est que, comme vous l'avez dit, les ordonnances, j'ai moins de mal à les vendre à une opinion qui est remontée comme un coucou contre le 49 alinéa 3. Et donc, si jamais on arrive au 49 alinéa 3, il faudra que ceux qui l'ont enterré le demandent. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit le Parti Socialiste qui demande le 49 alinéa 3. Autant vous dire que la couleuvre va être très, très grande à avaler.
Alors maintenant, dernière option. Si rien de tout ça ne fonctionne, est-ce que la carte de la dissolution est à nouveau possible? Et dans ce cas, quand?
Alors tout de suite, là, maintenant, non, tout bêtement, parce que pour des raisons procédurales, si là on a une dissolution, on peut pas voter des lois spéciales, on peut pas prendre des ordonnances parce que le PLFSS va revenir à l'Assemblée, et on peut pas non plus, voter un budget parce que par définition, on n'aura pas d'Assemblée. Une fois qu'on aura voté des lois spéciales, si on en vote, c'est-à-dire aux alentours du 19 décembre, ensuite on peut imaginer une dissolution. Il n'est pas impossible que le 31 décembre, pour les vœux, on ait le droit à une dissolution. Notez que ça embêterait Marine Le Pen qui sera en plein procès, que ça embêterait le Parti Socialiste et les LR qui seront en pleine campagne municipale. Et à ce moment-là, ça peut éventuellement être une lubie du chef de l'État. Entendons bien toutefois qu'une dissolution ne donne pas nécessairement une majorité, et toujours pas de majorité égale toujours pas de budget.
Vous aurez le temps de revenir, je le sens. Mais vous prévoyez donc effectivement une petite surprise dans les vœux du président. C'est à ce moment-là, en tout cas, s'il y a dissolution, qu'elle pourrait intervenir. Benjamin Morel, politologue, merci à vous de nous avoir expliqué ce qui reste quand même très compliqué. À 7h20, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, écoutez. Et pourtant, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et c'est même de la diplomatie, Arthur, parce que le couple de pandas du zoo de Boisval va quitter la France pour la Chine.
Oui, quand la Chine vous envoie un panda, c'est une marque d'amitié. Ça s'appelle la diplomatie du panda et ça dure depuis le 6e siècle.
Et attention donc s'il les rapatrie, comme ça risque d'être le cas. Et puis Arnaud Demange va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Emmanuel Bompard. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes exactement sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier, c'était le dernier jour pour voir les deux pandas du zoo de Boisval. Ils repartent pour la Chine demain, comme le veut la tradition.
Oui, la France n'en était pas propriétaire de ces pandas. La Chine nous les avait seulement loués en 2012 dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie du panda.
C'est quoi cette diplomatie du panda et ça date de quand ?
Alors, c'est très ancien, puisque au 6e siècle, les empereurs chinois offraient déjà des pandas à leurs alliés. C'était une marque de reconnaissance, puisqu'en Chine, le panda, c'est un animal sacré. La pratique va rester et au 20e siècle, ce système s'étend à tous les pays étrangers.
Et ça va être particulièrement utile quand la Chine va devenir communiste.
Oui, quand Mao, le fameux leader communiste, vous donnait un panda, ça voulait dire que vous étiez son copain. Hein. Par exemple, dans les années 1970, les relations entre les États-Unis et la Chine communiste se réchauffent. Qu'est-ce que fait Mao ? Eh bien, hop, il envoie un couple de pandas à la femme du président américain de l'époque, c'était Nixon, et la First Lady les accueille en personne devant toutes les caméras du pays. C'était un événement considérable.
Est-ce qu'on peut refuser d'accueillir un panda ?
Alors vous pouvez, Apolline, mais je ne vous le conseille pas. Hein. Attention, puisque refuser un panda, c'est un outrage que Pékin pardonne très difficilement, mais c'est déjà arrivé en 2005. La Chine offre deux pandas à Taïwan en signe d'apaisement, et là, coup de théâtre, Taïwan refuse. Ça avait été évidemment très mal vécu. Aujourd'hui, personne ne l'a oublié.
Est-ce que la Chine peut reprendre ses pandas ?
Oui, puisqu'en 1984, la Chine a changé ses règles. Les animaux ne sont plus offerts, mais prêtés. Si tout se passe bien, leur prêt est prolongé. Mais si ça se passe mal, en revanche, les animaux rentrent illico presto. Ça s'est produit en 2023, après des désaccords très profonds avec le Royaume-Uni. La Chine rapatrie tous ses pandas de l'île britannique, une punition.
Et la France a elle aussi donc bénéficié de la diplomatie du panda.
Eh bien oui, et la première fois c'était en 1973. Le premier ministre chinois offre un couple de pandas au président Pompidou. Les animaux seront en résidence au zoo de Vincennes pendant des décennies. Il faut ensuite attendre 2012 pour que Nicolas Sarkozy obtienne le prêt de deux nouveaux pandas. Ils s'appelaient Wan Wan et Wan Zi. Ce sont eux qui quittent la France demain.
Ils quittent la France demain et d'ailleurs, ils ont eu des enfants.
Et oui, trois bébés pandas qui appartiennent eux aussi à la Chine, hein, c'est la règle.
Ah, je pensais qu'on pouvait quand même au moins garder les petits.
Alors attendez, j'y viens. Ah. Alors, un d'entre eux, un de ces trois enfants est rentré, mais les deux autres, a priori, sont partis pour rester chez nous. Le retour des parents n'est pas le signe d'un mécontentement de Pékin. Hein. Les animaux vieillissent et en fait, c'est la tradition. Ils vont finir leur vie où ils l'avaient commencé, dans la région du Sichuan, en Chine.
Ils retournent pour leur retraite en Chine.
Exactement. Parce qu'on n'a plus l'argent pour les payer.
Du panda avec Arthur Chevalier, 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le coordinateur, comme on dit, de la France Insoumise, bref, le patron, député LFI des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard.
Oui, Manuel Bompard. Qui est député de Marseille, qui explique son petit accent chantant, oui. qui sent bon le chou-fleur, hein, il est dans la Loire, hein. Il n'est pas de Marseille. La France Insoumise qui s'est mise en ordre de bataille ce week-end pour la campagne des élections municipales. Alors il y aura des listes LFI dans plus de 500 communes, y compris dans des municipalités sortantes de gauche. Ils veulent reconquérir Roubaix, Montpellier, Lille, Toulouse, Marseille, Khan-Younes, Rafah, pas Deauville. Ils ont pas, et Neuilly-sur-Seine, pas sûr qu'ils la prennent. Villejuif, aucune chance. Manuel Bompard était à la marche blanche pour Mehdi Kessassi ce week-end. On sait qu'il est contre la drogue. Hein, Apolline, quand vous le recevez, vous vous dites pas, tiens, il a pris du gaz hilarant avant de venir, Manuel Bompard. Non, il est pas très protoxyde d'azote. Il soutient l'augmentation moyens pour la justice afin de lutter contre le narcotrafic, mais il souhaite aussi une réflexion sur le volet santé, c'est-à-dire traiter le problème sous l'angle de l'addiction. D'ailleurs, si on légalise, ça va être un drame pour les rappeurs marseillais. Parce que autant le trafic, c'est cool à raconter, autant la gestion d'une boîte qui fait du commerce de cannabis. Le bise, c'est la Zermi. C'est légal, c'est la Zermi. Hier, le comptable m'a dit qu'on était en retard sur la déclaration de TVA. Pourtant, j'avais bien rempli le bon formulaire CERFA. Mais l'URSSAF a prélevé plus que ce qu'on avait anticipé sur les comptes du troisième trimestre. La conjoncture, tu connais. En boîte organisée, l'URSSAF va nous canaliser.
Ce sera moins bien chez Soprano.
Bon.
Alors, Sébastien Delegu a suggéré de confier la vente de cannabis aux dealers en cas de légalisation. Alors, c'est contre-intuitif, mais pourquoi pas? De la même façon, les voleurs du Louvre, on pourrait leur demander de poser le double vitrage chez nous. Ils savent faire, quoi, ils s'y connaissent. On devrait, vous savez, on devrait demander plus souvent à des curés de faire du babysitting. C'est vrai qu'ils adorent les enfants. Bon, bah là, c'est la même idée. Ça va encore râler, d'ailleurs, la réception de Manuel Bompard chez nos voisins de BFM Business, chez le couple Emmanuel Le Chypre, Edwige Chevrillon. Ils vont regarder par la fenêtre. Emmanuel! Il y a une vieille voiture garée devant la maison. Qui reçoivent encore les punks de RMC?
Attends, Moumoune, je regarde. Oh non, c'est Manuel Bompard de la France Insoumise.
Emmanuel, dis aux enfants de rentrer. Geoffroy Roux de Bézieux, Nicolas Bouzou, rentrez à la maison tout de suite. Je ne veux pas vous voir traîner avec des gauchistes.
Oui, rentrez à la maison, les enfants. Il y a un drogué à la dépense sociale qui rôde.
Et allez, rendez-vous avec Manuel Bompard. À 8h30.
Vivement, vivement, Manuel Bompard. Donc à 8h30. Et un autre manche qu'on retrouve d'ici là à 8h15. Il est 7h27. À tout de suite pour la météo et le journal. 7h29 et c'est encore de la pluie, Géraldine.
Beaucoup de pluie, oui, pour aujourd'hui, si bien qu'on a même trois départements en vigilance orange, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze en vigilance orange pour de fortes pluies, des risques d'inondations. Il va beaucoup pleuvoir de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est. D'ailleurs, en montagne, ça se traduit par de grosses chutes de neige. Attention au risque d'avalanche qui est marqué pour les Alpes. La Corse aussi sera sous la pluie. Sur le Nord-Ouest, il y aura des éclaircies, mais il y aura aussi de bonnes averses, parfois orageuses, parfois sous forme de grésil et avec beaucoup de vent. En revanche, les températures sont très nettement remontées. Ce matin, c'est la douceur qui domine. Cet après-midi, midi, on aura 8 degrés à Lille, 10 à Paris, 13 à Nantes, 14 à Bordeaux, 16 à Marseille, jusqu'à 17 pour Perpignan. Et il fera à nouveau plus frais demain avec des averses un peu partout.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS Agri CNAPS.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le débat sur les rythmes scolaires relancé par les conclusions de la Convention citoyenne qui préconise notamment de faire revenir les élèves à 5 jours d'école par semaine. Des difficultés dans l'armée pour recruter et fidéliser, c'est l'enquête d'RMC ce matin, alors que le président devrait annoncer cette semaine un nouveau service militaire volontaire. Et puis une exclue RMC, les Français sont 22% de plus qu'il y a 4 ans à mettre leur véhicule en location pour arrondir leur fin de mois.
Faut-il revoir les rythmes scolaires de nos enfants?
C'est ce que préconise la Convention citoyenne mandatée à l'époque par le gouvernement Bayrou avec 20 propositions comme le retour à la semaine de 5 jours dans les écoles élémentaires, des cours de 45 minutes maximum qui ne démarreraient pas avant 9h et des activités l'après-midi, autant de mesures qui pourraient, Solène Leroux, être reprises par l'exécutif.
Le rapport est d'ores et déjà à la disposition des ministres concernés, nous assure un conseiller. Les ministères ont plusieurs semaines pour analyser les propositions, nous dit-on encore. Des discussions s'engageront ensuite logiquement avec les parlementaires, les élus locaux aussi. Certains ont d'ailleurs déjà été contactés par quelques-uns des 133 participants à la convention pour que ce rapport ne prenne pas la poussière sur une étagère. Ces citoyens restent donc vigilants dans ce contexte politique instable. Le sort des deux premières conventions citoyennes a de quoi leur donner un peu d'espoir. Pour le climat, 70% du rapport a été repris, tandis que celui sur la fin de vie a abouti à deux propositions de loi, même si elles ne sont pas encore définitivement adoptées.
7h32 sur RMC, et un nouveau cas d'antisémitisme à l'université. Cette fois, il vient d'un professeur de l'université Lyon 2. Cet enseignant d'histoire médiévale a dressé une liste de personnalités à boycotter, personnalités qu'il qualifie de génocidaires, Inès Zegloul.
Des personnalités listées, numérotées de 1 à 20, entre autres Charlotte Gainsbourg, le réalisateur Yvan Attal, ou encore Arthur, l'animateur. Dans un post sur les réseaux sociaux, l'enseignant reprend les noms des signataires du une tribune qui appelait à conditionner la reconnaissance de l'État de Palestine et les qualifie de génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Une attitude ignominieuse, pointe la LICRA, qui voit une provocation à la discrimination et à la violence. Jonathan Arfi, président du CRIF et nommément cité par l'enseignant, parle lui d'un choc.
Parce qu'il a choisi d'attaquer des personnes juives ou assimilées au combat contre l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est grave et qui, à mon avis, mériterait des sanctions.
Contacté, l'administration de l'université Université Lyon 2 dit se désolidariser complètement et assure que des mesures seront prises. Le professeur, quant à lui, assume et sur ses réseaux sociaux réfute toute accusation d'antisémitisme. Il parle de calomnie à son encontre.
Il est 7h33 sur RMC et c'est une petite lueur d'espoir pour l'Ukraine après plus de 3 ans de guerre avec la Russie. Les pourparlers menés hier en Suisse avec les États-Unis ont permis de faire des progrès. C'est ce que dit le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui ne cache pas son optimisme. Et la position de Washington semble s'infléchir après avoir présenté un plan de paix plutôt à la faveur de Moscou. La Maison-Blanche a rappelé hier soir la nécessité de maintenir la souveraineté de l'Ukraine.
7h34 et c'est la menace russe qui est à l'origine de ce service militaire volontaire qu'Emmanuel Macron devrait annoncer cette semaine.
10 mois payés 900 à 1000 euros selon les informations de nos confrères de la Tribune dimanche. De quoi peut-être susciter des vocations et c'est nécessaire à l'heure où l'armée peine à recruter et à fidéliser. Alfred Orange.
Avec ce chiffre, 10% des effectifs militaires quittent tous les ans le service actif de l'armée de terre. Dans le lot, un chiffre ressort, celui des désertions, plus de 1000 chaque année. Des soldats souvent déçus par la réalité du métier. Maître Élodie Daumont est avocate en droit pénal militaire.
C'est l'inadéquation entre les espérances affichées, aller au combat, faire des OPEX, et puis finalement se retrouver alors en mission vigipirate ou autre, et sur des fonctions non intervenantes qui pour eux peuvent leur faire perdre le sens.
Un déficit d'attractivité que l'armée essaye de combler en améliorant salaire et prise en compte de la vie familiale. Le général Arnaud Goujon est sous-directeur du pôle recrutement jeunesse dans l'armée de terre.
On a revalorisé les grilles salariales de nos sous-officiers dans un premier temps, de nos officiers tout récemment. On a mis en place tout un plan d'accompagnement pour les familles avec un travail sur l'offre d'école, l'offre de logement quand les gens déménagent, parce que la mobilité c'est un des marqueurs important d'une carrière militaire.
Et l'enjeu est de taille. D'ici 2030, le ministère des Armées compte engager 6000 militaires de carrière supplémentaire.
Une enquête RMC signée Alfred Orange. Il est 7h35, louer sa voiture pour arrondir ses fins de mois. La pratique séduit de plus en plus de Français. C'est ce que nous apprend une étude réalisée par la plateforme de location Turo, qu'RMC vous dévoile en exclusivité ce matin. Le nombre de loueurs a augmenté de 22% en 4 ans. Et cette année, près d'un tiers d'entre eux a réussi à générer plus de 500 euros par mois. Une aubaine, notamment pour ceux qui utilisent très peu leur véhicule, Ameline Lafchin.
Comme à chacun de ses passages en Ile-de-France, Emmanuel passe chez Florian.
Vous allez bien ?
Elle est là pour lui rendre les clés de sa voiture qu'elle lui a louée 31 euros pour une durée de 24 heures.
C'est bien passé ?
Oui, j'habite Marseille, je vais voir ma maman et je l'aide pendant une journée à faire des courses et on a besoin d'une voiture pour bouger en fait.
C'est l'état
oui,
des lieux ?
Oui, l'état des lieux.
Quand étant commercial, j'ai une voiture de fonction. Donc ça veut dire que ma voiture, elle ne servait pas à grand chose.
Alors il y a 2 ans, Florian décide de louer sa voiture personnelle.
Les réservations se sont faites directement. Je crois que la première semaine, ça a été complet. C'est très intéressant parce que ce véhicule, il peut me rapporter jusqu'à 400 euros par mois. C'est vraiment énorme. Je fais des restaurants avec madame, des petits cinémas. Là, on a mis de l'argent de côté. On part à Arcachon dans 2 semaines.
Et ce complément de salaire, selon Alette Dassigny du Club Automobile Roule, il permet surtout aux propriétaires de rentabiliser le coût de leur voiture.
Le budget mensuel moyen, c'est 416 euros. C'est quand même des pratiques de débrouille qui sont devenues un peu courantes parce que le budget moyen est trop élevé, quoi.
Selon une étude de l'association des acteurs de l'autopartage, 80% des usagers estiment que louer une voiture revient moins cher que d'en posséder une.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 4, Jamaica Brown. L'outsider, c'est le 13, Joria Méloise.
Merci Élise, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'un des 100 détenus les plus dangereux de France, dans la nature, toute la journée, sans escorte, et c'est légal, c'est la procédure. Bonjour Justine Gerbeau.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de l'administration pénitentiaire. Dans quelles conditions cette sortie a-t-elle été rendue possible ? Que va faire ce détenu dans la nature à traverser la France toute la journée, tranquille, sans escorte ? Faut-il faire évoluer la loi ? Comme le demande le ministre de la Justice, je vous pose toutes ces questions et vos explications dans un instant. Il est 7h37.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous à l'écoute d'RMC ou en regardant RMC Story. Il est 7h41. Une permission de sortir qui fait scandale. Un homme de 52 ans, connu comme l'un des plus gros barons de la drogue en Seine-Saint-Denis, retenu dans l'une des prisons de haute sécurité, va pourtant être libre, libre toute la journée et sans escorte policière. Bonjour Justine Gerbeau.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de l'administration pénitentiaire. Cet homme, il est pourtant emprisonné à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Il a obtenu cette permission de sortir pour passer un entretien d'embauche dans la région lyonnaise. Il va donc passer d'un cadre dans lequel il est sous surveillance 24/24, dans lequel il n'a pas le droit au téléphone portable, dans lequel tout est contrôlé, à une journée où il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut prendre le TGV, se promener, utiliser le téléphone de sa femme. C'est une journée libre avec simplement l'obligation de cet entretien d'embauche. Est-ce qu'on est bien d'accord ?
Effectivement, ce détenu a obtenu le bénéfice d'une permission de sortir, donc sur les horaires qui ont été validés par l'autorité judiciaire, puisque je rappelle, l'octroi d'une permission de sortir est avant tout une décision de justice, c'est un juge d'application des peines qui a pris cette décision. Et donc pendant la durée des horaires qui lui ont été autorisés, il va pouvoir donc se rendre à son rendez-vous et effectivement il ne sera pas contrôlé dans ses actions aujourd'hui.
Vous le dites bien, c'est le juge d'application des peines qui en a décidé ainsi, alors que le directeur de la prison avait un avis défavorable. Le parquet avait un avis défavorable. C'est donc le juge d'application des peines qui, malgré ses avis défavorables, a autorisé cette sortie. Je précise que le détenu en question avait déjà fait une tentative de s'échapper d'une prison. C'était en 2014, avant d'être rattrapé par la justice. Ça vous choque ?
C'est effectivement une décision de justice. Je peux pas commenter une décision de justice. Donc le juge d'application des peines effectivement a pris cette décision dans une instance collégiale, comme toutes les permissions de sortir. Donc au cours de laquelle plusieurs acteurs et notamment mon collègue le chef d'établissement de Vendin-le-Vieil a donc émis un avis défavorable. Le parquet était également défavorable, a formé appel contre la décision du juge d'application des peines et cette décision a été validée en appel. Donc voilà, c'est vraiment une décision de
la
justice.
Dites ce matin, c'est que, aussi absurde que ça puisse paraître, alors je comprends bien que c'est pas, vous ne pouvez pas vous autoriser ce type de vocabulaire, vous qui êtes porte-parole, mais concrètement, on se retrouve avec un détenu qui passe de l'ultra haute sécurité, qui est considéré comme l'un des 100 les plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui en priorité ont été placés dans cette nouvelle prison de ultra haute sécurité, qui va passer donc de ce cadre-là à une journée où, on est bien d'accord, il peut techniquement prendre le TGV avec sa femme, être assis parmi les passagers, c'est ça qui peut se passer ?
Effectivement, il a été autorisé donc à sortir et donc à se rendre à un rendez-vous employeur en dehors de la région, en dehors de la.
Mais ses sorties sont non encadrées, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'escorte.
C'est le principe de la permission de sortir. Vous avez effectivement évoqué le cadre très contraignant du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. C'est le cas. Ce cadre a été créé par la loi narcotrafic juste avant l'été. Cette loi n'a pas prévu de dispositions particulières spécifiques dans le cadre de l'application des peines.
Il y a un petit manque.
En tout cas, cette situation nous oblige à nous questionner. C'est d'ailleurs à ce titre que le garde des Sceaux, dès ce week-end, a indiqué qu'un projet de loi serait déposé en début d'année prochaine pour adapter justement ce régime spécifique.
Donc en fait,
la prise en charge à l'extérieur, enfin en tout cas pour l'application des peines.
On a adapté la prison, on a fait des travaux, on a fait en sorte que ce soit vraiment une prison prioritaire pour les ultra-dangereux, mais on n'a pas modifié les règles de sortie.
Non, alors c'est le cadre général du coup qui a vocation à s'appliquer pour l'ensemble de ces détenus. Comme je le disais, le ministre l'a rappelé dès ce week-end. Effectivement, il y a sans doute besoin de se questionner sur ce cadre général et de l'adapter pour permettre au juge d'application des peines qui prennent ces décisions d'avoir la pleine connaissance des profils qui sont pris en charge.
La question, c'est donc l'autorisation de sortie, mais c'est ensuite le cadre, c'est-à-dire c'est sa femme qui va venir le chercher, qui va l'emmener à ce rendez-vous. Comme je le disais, il y a 600 km entre Vendin-le-Vieil et la région lyonnaise dans laquelle il aura ce rendez-vous. Il ne peut pas ne pas prendre le TGV, sinon il ne sera pas revenu à temps. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, il va se promener sans escorte dans la France. Brahim réagit, et d'ailleurs vous êtes nombreux à réagir, mais Brahim, vous êtes au téléphone avec nous. Vous nous appelez de Saint-Laurent-du-Var. Vous êtes chauffeur de bus. Votre réaction ?
Oui, bonjour Apolline.
Bonjour Brahim.
Ma réaction, c'est que la justice tombe sur la tête. Hein. Il devrait modifier les règles de sortie. Là, il sort de prison, il ne sera pas surveillé. Il y a un risque de cavale. Moi, je pense qu'il y a une chance sur deux qu'il ne reviendra pas en prison, vu que ça a sorti en 2029. Je pense pas qu'il reviendra en prison ce soir. Hein.
Alors, attendez, parce que à l'instant, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, visiblement face à cette levée de boucliers, y compris de l'opinion publique qui hallucine depuis hier, annonce à BFM TV un dispositif, je cite, un dispositif sera mis en place tout au long de sa sortie. Alors je ne sais pas encore de quel dispositif il peut s'agir. Brahim, restez avec nous. Ça veut quand même dire que concrètement, il peut y avoir quoi ? Des policiers en civil autour, des personnels pénitentiaires ? Qu'est-ce que ça peut être, ce dispositif, pour citer le ministre de l'Intérieur ?
Alors, de toute façon, ce dispositif ne pourra être qu'un dispositif mis en place avec des forces de l'ordre. Ça ne pourra pas être du personnel pénitentiaire. Le cadre ne le prévoit pas. On est dans le cadre d'une permission de sortir employeur classique, comme il y en a tous les jours. Alors certes, pas à l'établissement de Vendin-le-Vieil, mais en tout cas, il y en a tous les jours. C'est un des outils indispensables de la réinsertion et de la préparation à la sortie des personnes détenues que l'administration pénitentiaire prend en charge. Mais là, en l'occurrence, sur ce type de permission de sortir, effectivement, il n'y a pas d'accompagnement prévu. On est dans un cadre de responsabilisation, d'autonomisation aussi de la personne détenue pour la préparer à sa sortie.
C'est-à-dire, en fait, on les responsabilise. C'est super. Non, mais on a regardé quand même un peu le...
Bien sûr, c'est l'objectif de la permission de sortir. Encore une fois, je vous l'ai dit, le process normal d'attribution d'une permission de sortir, c'est une instance collégiale. Donc voilà, il y a plusieurs personnes autour de la table qui déterminent l'opportunité ou pas d'octroyer cette permission de sortir.
Autre question, vous qui êtes la porte-parole de l'administration pénitentiaire, on a bien compris que cette autorisation de sortir, elle est justifiée par cette rencontre avec un potentiel employeur. On est en 2025, la sortie prévue de ce détenu, c'est 2029. Y avait-il urgence ?
Là encore, on est dans un cadre... Alors certes, effectivement, ce qui fait la spécificité de cette permission de sortir, c'est l'affectation de ce détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Mais là encore, on n'est pas dans une situation inhabituelle ou anormale. L'octroi de permission de sortir arrive en fait au moment où la personne détenue devient éligible à demander un aménagement de peine. Et cette éligibilité à un aménagement de peine est proportionnelle à la partie de peine qu'elle a pu effectuer et la partie de peine qui lui reste à effectuer.
Et ça fait quand même un bout de temps, en effet, que ce détenu est en prison. Une question au 32-7.
Oui, celle de Dominique, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, je vous passe sa colère et sa surprise, hein, on en a déjà parlé. Il pose une question simple, pourquoi pas une visio pour un entretien d'embauche ?
Là encore, c'est à l'appréciation du magistrat. Hein. Les modalités de la permission de sortir, en tout cas, n'ont pas été décidées ou discutées ou organisées par l'administration pénitentiaire. La personne détenue a fait une demande de permission de sortir pour rencontrer cet employeur comme il y a droit.
En distanciel, puisqu'il y avait l'enjeu de cet entretien.
En tout cas, l'autorité judiciaire a estimé que les caractéristiques, enfin les éléments étaient.
Vous précisez à chaque fois. Je vais quand même être très clair. Et je sais que votre job est difficile, hein, Justine Gerbeau. Vous êtes porte-parole. Vous devez faire attention à chaque mot que vous utilisez et rester dans le cadre effectivement du respect de la procédure. Encore une fois, on le dit, et c'est d'ailleurs ce qui rend tout le monde assez surpris au minimum. Et encore, je pèse mes mots. C'est que la procédure, elle a justement été respectée.
Tout à fait.
Mais des personnels pénitentiaire dénonce, je cite, une décision déconnectée de la réalité. Des visios, comme le dit Mathieu à l'instant, pour des entretiens d'embauche, désormais, c'est tout à fait monnaie courante. Comment est-ce que c'est possible que dans un cadre comme celui-là, votre voix à vous, c'est-à-dire la voix du personnel pénitentiaire, n'ait pas été davantage entendue ou écoutée par la justice ?
Au sein de l'établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, effectivement, il a été envisagé aussi tout un tas de dispositifs pour limiter le nombre de sorties. Donc peut-être effectivement que le projet de loi que va présenter le ministre en début d'année prochaine doit aussi orienter davantage sur la dématérialisation de ces entretiens et peut-être privilégier la forme de la visio aussi pour ce type de...
Espérons-le. En tout cas, on l'apprend donc à l'instant face à cette levée de bouclier. On annonce donc à l'instant, c'est Laurent Nunez qui l'annonce, un dispositif d'accompagnement. Alors, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme ce sera, mais vous venez nous donner en tout cas une partie de la réponse, Justine Gerbeau, puisque vous nous dites qu'il ne s'agira pas en tout cas de personnel pénitentiaire. Justine Gerbeau, porte-parole de l'administration pénitentiaire, merci à vous. Dans un instant, la voix de droite d'RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
C'est le débat qui agite la classe politique en ce moment. Faut-il un retour du service militaire ? Vous allez même plus loin. Vous êtes pour une forme de loterie qu'on fasse français à travers ce service.
Exactement ça, c'est toujours l'armée qui a fait la France. Alors, service obligatoire, pas forcément, mais volontaire absolument.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec un inédit des Rolling Stones.
Alors, il ne doit pas rester beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues avec le groupe de rock qui est au sommet depuis le début des années 60. Mais figurez-vous que l'album Black and Blue vient d'être réédité accompagné d'un inédit I Love Ladies que les fans découvrent, ça donne ça. On parle d'un album sorti en 76, 13e album studio du groupe, pas le plus connu, mais pourtant charnière, il avait décontenancé les fans. On y trouve de la funk, du soul, de reggae, les Stones expérimentés. C'est aussi un album de transition entre le départ d'un guitariste et l'arrivée d'un autre, Ronnie Wood, qui est encore avec eux aujourd'hui. Bref, une réédition d'album, deux inédits, un Blu-ray live, un livre, des affiches rééditées aussi pour cet album qui était un peu oublié, Black and Blue, de quoi le remettre en bonne place dans la discographie des Rolling Stones et de quoi garnir le pied des sapins de Noël, c'est dans un mois.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53, c'est lundi, et tous les lundis c'est la voix de droite. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
Louis, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer un service militaire volontaire, 10 mois, rémunéré entre 900 et 1000 euros par mois, c'est ce qu'annonce la Tribune dimanche hier. Est-ce que ça serait utile, et surtout, Louis, est-ce qu'il faut aller plus loin, imposer même un service militaire obligatoire comme avant?
Alors Apolline, il faut être très clair, un service militaire volontaire est une excellente idée, et non pas un service obligatoire, du moins pas pour tout le monde. Stratégiquement d'ailleurs, ça n'a aucun sens d'amener des centaines de milliers de jeunes non entraînés dans les casernes, c'est une fiction nostalgique. L'armée n'a ni les ressources et ni la volonté de former un tel nombre de jeunes. En revanche, tous ceux qui veulent servir, et ils sont un Français sur quatre, à avoir pensé à l'armée une fois, au moins une fois dans leur vie, ceux-là, faut les récupérer, et tous.
Faut les récupérer. Alors pourquoi ce volontariat serait si important? On se souvient du fameux Service National Universel, le SNU. Ça n'a pas marché. Hein.
Oui, parce que le Service National est un truc de politicard centriste décérébré qui voulait prétendre à l'action sans rien faire. Ça n'avait aucun sens, et l'histoire d'ailleurs l'a montré. Mais oui, le service militaire volontaire, lui, remplit un vrai rôle sociétal et national. Il faut lire le maréchal Lyautey en 1891, le rôle social de l'officier. Il explique que l'armée est la grande école de la nation, le lieu où se mêlent ouvriers, étudiants, croyants et athées, ruraux et urbains. Quand vous mettez tout le monde en uniforme, il n'y a plus de clans, plus de musulmans ou chrétiens. Il reste une seule chose, une nation.
Vous dites que l'armée a une vocation assimilatoire.
Oui, du moins, elle le devrait. Nous avons des défis migratoires, des défis d'intégration, des défis d'assimilation, une cohésion nationale qui s'effrite, une identité française qui doute d'elle-même. L'armée peut redevenir ce creuset d'appartenance comme le souhaitait Lyautey. Vous prenez un jeune, qu'il soit fils d'ouvrier, étudiant perdu ou nouvel arrivant immigratoire, d'ailleurs légal, vous l'intégrez dans un cadre, une discipline, une mission, et dans un an, deux ans, vous récupérez un citoyen.
En fait, vous parlez comme si l'armée, c'était la solution à tous nos problèmes, et notamment nos problèmes sociaux.
Elle peut l'être, Apolline, il s'agit juste d'avoir un petit peu d'imagination. D'ailleurs, je vous fais une proposition.
Allez-y.
Pourquoi ne pas instaurer, par exemple, une loterie, disons de 10%, où tous les nouveaux immigrés légaux seraient obligés de servir dans l'armée? Déjà, cela produirait un effet dissuasif, puisque beaucoup d'immigrants hésiteraient à nous rejoindre par peur de devoir servir en uniforme. Vous voulez devenir français? Très bien. Il y a un prix à payer. Deuxièmement, il faut installer l'armée comme une réponse à la petite délinquance, que tous les jeunes qui commencent à entrer dans la délinquance se voient infliger, parmi leurs peines, une obligation de servir dans l'armée.
Mais c'est pas un peu naïf, voire dangereux?
Alors écoutez, je parle déjà des petits délinquants et des migrants légaux, ceux qui
constituent déjà... D'accord, pas ceux qui sont le vieil.
Exactement, un premier filtre. Et je parle aussi d'un corps d'armée spécialisé. Il ne s'agit pas de leur mettre une arme dans les mains dès les premiers jours, mais de les encadrer avec des légionnaires, des formateurs, des durs, des vrais soldats, pour en faire de vrais soldats. Et cela n'empêche pas du tout de les remettre en prison s'ils deviennent ingérables. La leçon, elle est simple, c'est que la caserne serve à fabriquer des Français.
C'est donc votre parti pris, Louis Sarkozy, cette loterie et cette armée qui sert à faire français. Merci beaucoup, Louis. Voix de droite ce matin, et demain ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot à 7h50. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant avec le journal de 8h à la une. Il va faire Vendin-le-Vielle, Lyon, dans la journée, en TGV. Et pourtant, c'est l'un des détenus les plus dangereux de France, dans la nature. Donc aujourd'hui, les explications dès le début de ce journal. La météo, il fait moins froid, mais attention, le temps est très, très agité. Et puis juste après le journal, Emmanuel Le Chypre. Combien de jours par semaine mon employeur peut-il me faire travailler? On peut travailler jusqu'à 12 jours de suite. Il va nous le dire dans un instant. Il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.